Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir.
République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila et son regroupement politique remportent les élections sénatoriales.
Le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires africaines, Tibor Nage, en visite à Kinshasa.
Tuerie dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande, un extrémiste de droite a tué 49 fidèles.
Nous ferons le point sur le sommet et sur l'environnement qui se tient au Kenya.
Si nous continuons d'évoluer dans l'immobilisme et l'inaction, elle n'a pas d'avenir. À moins qu'une action d'envergure soit mise en œuvre dans les plus brefs délais.
Manifestation dans le centre d'Alger, une importante foule protestait contre la décision du président Abdelaziz Bouteflika de reporter l'élection présidentielle.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila et son regroupement politique remportent les élections sénatoriales qui ont eu lieu ce vendredi. Le Front commun pour le Congo arrive largement en tête devant la coalition Lamuka de Martin Fayulu et Cap pour le changement de Félix Tshisekedi. Nous faisons le point avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Plus de 90 sénateurs élus pour le compte du Front commun pour le Congo, regroupement politique de l'ex-président Joseph Kabila contre 6 pour la coalition Lamuka de Martin Fayulu et au moins 3 pour Cap pour les changements de Félix Tshisekedi sur les 109 sièges que compte le Sénat, c'est le principal enseignement à tirer de ces sénatoriales. Comme à l'Assemblée nationale et dans la plupart des assemblées provinciales du pays, le FCC de Joseph Kabila sera largement majoritaire au Sénat, où siégera également l'ancien président de la République en qualité de sénateur à vie. Parmi les faits surprenants de ces élections, notez en première ligne que malgré ses 12 députés provinciaux à Kinshasa, l'UDPS, parti du président de la République, n'a réussi à faire élire aucun sénateur dans la capitale. De nombreuses figures de la politique congolaise ont également échoué à ce scrutin, le cas du premier ministre Bruno Tshibala, des ministres Thomas Luaka, Basile Olongo et Lambert Matuku, ou encore de l'ex-rebelle Roger Lumbala. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les USA sont prêts à soutenir le président Félix Tshisekedi, mais aussi à écouter les acteurs politiques de l'opposition. C'est ce qu'a déclaré à Kinshasa le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires africaines, Tibor Nage. On écoute un extrait de sa conférence de presse.
As you know, we in the United States of America, we believe in talking to all political sides.
Comme vous le savez, aux États-Unis, nous croyons à la nécessité de parler à toutes les tendances. Nous avons eu des discussions très fructueuses avec les membres du gouvernement. J'ai aussi exprimé le souhait de pouvoir entretenir avec les représentants de l'opposition. Comme vous le savez, quand nous formons notre politique étrangère, nous sommes disposés à parler à tout le monde. Après l'élection, nous avons félicité le peuple congolais pour sa participation au scrutin. Nous avons également félicité le président Tshisekedi pour sa victoire, mais nous sommes aussi prêts à écouter les autres acteurs politiques. Et à chaque fois, je dois souligner le fait que oui, chaque élection, les États-Unis ont un candidat, et ce candidat, en fait, est le processus lui-même. Et en fin de compte, nous soutenons le processus, et en l'occurrence, nous sommes prêts à soutenir l'action du président Tshisekedi et les nobles objectifs qu'il poursuit. Et c'est ce que nous ferons à l'avenir.
Propos recueillis par Thierry Kamundi de Top Congo FM.
Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, 3 civils ont été tués la nuit passée à Sandawa-Djiri, dans l'arrondissement de Kolofata, une attaque imputée aux djihadistes de Boko Haram.
Le chef du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, faction des djihadistes de Boko Haram active dans le nord-est du Nigeria, a été remplacé. Des experts indiquent qu'Abdou Moussad al-Barnawi, fils du fondateur de Boko Haram, a été remplacé par Abdullah ibn Umar al-Barnawi.
Dans le nord-ouest du Nigeria, au moins 17 personnes ont été tuées dans l'attaque de John Rouvoy dans l'état de Kaduna. D'après la police, des hommes armés ont attaqué le village et volé du bétail, ce qui a entraîné un affrontement avec les membres d'une milice locale.
Nigeria toujours, un ingénieur libanais enlevé en début de semaine à Kano a été retrouvé mort en brousse. C'est ce qu'annonce la police locale, sans préciser si les ravisseurs avaient réclamé une rançon.
Et puis enfin, pour finir, mais toujours au Nigeria, le bilan de l'effondrement à Lagos d'un immeuble abritant une école est monté à 20 morts.
Mauritanie, le ministre de la Défense Mohamed Oul Cheikh Mohamed Ahmed, candidat à l'élection présidentielle prévue en juin, a quitté le gouvernement selon un décret présidentiel. Il est remplacé par un civil, l'ancien premier ministre Yahya Ould Adémine, jusqu'à présent ministre conseiller à la présidence.
Le président gambien Adama Barrow a limogé son vice-président, l'ancien opposant historique au régime de Yahya Jammeh, Ousseynou Darboé.
Nouvelle mobilisation en Algérie, une foule qualifiée d'impressionnante manifeste dans le centre d'Alger ce vendredi contre la prolongation sine die du mandat du président Abdelaziz Bouteflika au-delà du terme prévu. Compte rendu, Jacques Aristide.
La colère est vive mais toujours pacifique. Il s'agit du quatrième vendredi consécutif de contestation contre le chef de l'État algérien qui a reporté la présidentielle du 18 avril. Le nombre exact de manifestants est difficile à établir. Ni les autorités, ni les protestataires ne communiquent des chiffres. À Alger, c'est une ambiance festive. Hommes, femmes et enfants marchent autour du carrefour de la Grande Poste. Les manifestants continuent d'affluer, comme dans la capitale. Une très forte mobilisation est constatée à Oran et Constantine, deuxième et troisième ville du pays. En début de semaine, Ahmed Ouyaya, considéré comme étant très impopulaire, a été remplacé par Noureddine Bedoui au poste de Premier ministre. Mais pour des protestataires, la sortie médiatique du nouveau chef du gouvernement hier, aux côtés de son adjoint, le diplomate chevronné Ramtane Lamamra, n'a pas apaisé le mécontentement de la population, mais l'a au contraire renforcé. Âgé de 82 ans, le président Bouteflika, à la tête du pays depuis 20 ans, est affaibli par les séquelles d'un AVC qui l'empêche de s'adresser aux Algériens depuis 2013 et rendent ses apparitions publiques rares.
Enquête sur le crash du Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en Éthiopie. L'analyse des boîtes noires a débuté ce vendredi à Paris pour déterminer les causes de l'accident dans lequel 157 personnes ont péri dimanche.
Les dirigeants mondiaux réunis au sommet sur l'environnement qui s'est achevé à Nairobi au Kenya appellent à une action urgente pour ralentir la destruction des habitats naturels et accélérer le financement du développement vert. La communauté internationale s'est engagée à réduire significativement le plastique à usage unique d'ici 2020. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, les réactions se multiplient dans le monde après le double attentat contre des mosquées qui a fait 49 morts en Nouvelle-Zélande. Entre indignation et condamnation, plusieurs pays ont décidé de renforcer les mesures de sécurité. Abdourahmane Dia.
Plusieurs pays du Golfe ont condamné la tuerie. L'Arabie Saoudite et le Qatar ont tous deux dénoncé cette attaque qualifiée de terroriste par les autorités néo-zélandaises, la pire contre des musulmans dans un pays occidental. Les Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont également condamné les attaques, tout comme le Koweït et Oman. Abu Dhabi a condamné le meurtre de personnes innocentes et dit être totalement solidaire avec la Nouvelle-Zélande, un pays ami, pour combattre l'extrémisme et le terrorisme et sauvegarder la sécurité de ses citoyens et de tous ses résidents. Le pape François, la reine Elisabeth II, les présidents américains Donald Trump, français Emmanuel Macron et turc Recep Tayyip Erdogan ont, entre autres, condamné l'attaque perpétrée par un Australien de 28 ans, décrit comme un violent extrémiste de droite. Il sera présenté au juge samedi. Plusieurs pays ont aussi renforcé la sécurité dans les lieux de culte. La police britannique a annoncé un renforcement de la surveillance des mosquées. Un porte-parole de la première ministre Theresa May a par ailleurs regretté que l'assaillant ait pu diffuser en direct sur Internet les images de ses attaques.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a annoncé en conférence de presse des premières sanctions contre la Cour pénale internationale.
J'annonce aujourd'hui une politique de restriction du visa américain contre les personnes directement responsables pour l'enquête de la CPI contre les militaires américains.
En novembre 2017, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait annoncé qu'elle allait demander au juge l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit afghan, notamment par l'armée américaine. À noter que les États-Unis ne sont pas membres de la CPI.
Les États-Unis se sont efforcés de minimiser la menace nord-coréenne de suspension des négociations sur le désarmement nucléaire. L'administration américaine dit souhaiter continuer les discussions, mais plus de deux semaines après l'échec du sommet de Hanoï, aucun nouveau rendez-vous n'a été fixé entre les négociateurs.
Israël a riposté lourdement aujourd'hui à des tirs de roquettes de la bande de Gaza vers son territoire. Des dizaines de positions du mouvement islamiste palestinien Hamas ont été visées. Des hostilités ont ravivé de nouveau le spectre d'un conflit à Gaza où Israël et le Hamas se sont déjà livrés trois guerres depuis que le mouvement islamiste a pris le pouvoir en 2007.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée par Nani Talani.
Le Ghana va mettre en place 10 nouvelles mesures pour améliorer le secteur des affaires en vue d'attirer de nouvelles entreprises. Elles sont censées entrer en vigueur entre mars et juin 2019. Selon l'agence Ecofin, les nouvelles réformes devraient concerner la création d'entreprises, l'obtention de permis de construire, le secteur électrique, les échanges transfrontaliers et la résolution des cas d'insolvabilité. Maroc Telecom a signé hier avec Millicom un accord en vue d'acquérir la totalité du capital de sa filiale Tigo Tchad, premier opérateur mobile dans ce pays. Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement à l'international et vise à élargir et consolider la présence du groupe Maroc Telecom dans la région. La Tribune écrit que la réalisation de l'opération et par conséquent son accord définitif sont soumis à certaines conditions, en particulier l'approbation des autorités tchadiennes, dont la réponse est attendue dans un délai d'un mois. Pour finir cette Minute Éco, au Botswana, Debswana Diamond Mining vise à maintenir la production à environ 24 millions de carats cette année.
On enchaîne sur les sports, présentés par Eric Manirakiza. On commence par la Ligue des Champions. L'affiche des quarts de finale est déjà connue. Le tirage au sort a été effectué aujourd'hui au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.
Tout à fait, Morgan. Manchester United face au FC Barcelone de Lionel Messi, tandis que la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo affrontera l'Ajax Amsterdam. Liverpool hérite pour sa part d'un tirage favorable avec Porto, pendant qu'un duel 100% anglais opposera Tottenham à Manchester City. Les matchs aller, c'est entre les 9 et 10 avril et 16-17 avril pour les matchs retour. Les demi-finales aller se joueront le 30 avril et le 1er mai, une semaine avant la manche retour prévue les 7 et 8 mai. La finale se tiendra le 1er juin au stade Metropolitano à Madrid. Pour la première fois, Morgan, l'UEFA a aussi déterminé les affiches potentielles pour la suite de la compétition reine, avec une hypothétique finale Barça-Juve, ou plutôt Messi contre Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or chacun, pour faire rêver les supporters. Encore faut-il que les deux géants européens passent les quarts et les demi-finales.
Et on parle aussi de l'Euro 2020. Certains managers repensent leur stratégie.
L'entraîneur de l'Allemagne, Joachim Löw, a présenté aujourd'hui une équipe rajeunie avec trois petits nouveaux pour le match de qualification contre les Pays-Bas le 24 mars. Il a mis à la retraite trois cadors de l'équipe champion du monde en 2014. Les défenseurs Jérôme Boateng et Mats Hummels et l'attaquant Thomas Müller de Bayern Munich. Le groupe de l'équipe du Portugal retenu pour les deux premières rencontres de qualification est marqué par la réapparition de João Moutinho et la première convocation de trois nouveaux attaquants, sans oublier le retour de Cristiano Ronaldo. Le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, a profondément renouvelé son groupe pour les matchs de qualification contre la Norvège et Malte. Il a convoqué plusieurs nouveaux et a rappelé notamment le Parisien Juan Bernat au détriment d'Isco ou Coquet.
Enfin, la légende italienne Fabio Cannavaro, nommé sélectionneur de la Chine.
Capitaine de l'équipe d'Italie, championne du monde en 2006, Morgan, Fabio Cannavaro prend la sélection chinoise qui veut devenir une nation qui compte dans le football. Il succède à son mentor et compatriote Marcello Lippi, qui était justement la tête de cette sélection. Et c'est tout pour le sport.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Claire Morin-Vibourg, toujours avec vous pour la seconde partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au dossier du jour.
Au Tchad, une quarantaine de pays africains réfléchissent sur la rentabilité agricole en Afrique face aux défis économiques, climatiques et sécuritaires. C'est à l'occasion du Salon africain de l'agriculture dont les travaux ont pris fin ce vendredi à N'Djamena. André Konmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de la capitale tchadienne.
Une rencontre qui a vu beaucoup plus la participation des grandes entreprises, des associations et des institutions œuvrant dans le domaine des productions agro-sylvopastorales que les acteurs concernés qui sont les producteurs ruraux. C'est une occasion pour ces organisations continentales de montrer leur potentialité à travers leurs produits agricoles. Une manière de stimuler les chefs d'État africains de valoriser le secteur afin de relever les défis actuels de développement et de lutter contre la pauvreté dans la sous-région. Pour le président tchadien Idriss Déby Itno, le Tchad est potentiellement riche.
Le Tchad dispose en effet d'importantes potentialités dans le secteur agricole. La nature a pourvu le pays de terres riches et fertiles, de terres arables estimées à 39 millions d'hectares, soit 30% du territoire national. En Suisse, l'eau pour le travail de la terre est abondante. Dans certaines régions du pays, l'eau se trouve à même à fleur du sol.
Et pour y arriver, il faut une bonne politique d'aménagement agricole et de maîtrise d'eau.
Depuis le lac Tchad, quand vous regardez jusqu'au Salamat, à la frontière est du Tchad, vous voyez des étendues, des plaines cultivables. Il suffirait tout simplement de passer à la phase d'une agriculture plus organisée, en maîtrisant peut-être des cycles hydrologiques, pluviométriques, de manière à ce qu'on puisse faire même des cultures de contre-saison.
Docteur Dima Domna Mbatingar, géologue de formation. Pour lui, il faut non seulement revoir le système de production agricole, mais aussi penser à des structures de transformation des produits locaux.
On doit absolument mettre en place des chaînes de transformation structurelle, pouvoir transformer nos matières premières un peu sur place aussi, hein, contrairement à ce qui se passait depuis où toute la matière première de l'Afrique est envoyée vers l'extérieur.
Docteur Succès Mastra du mouvement Les Transformateurs estime que pour transformer les matières premières, il y a des conditions élémentaires de base qu'il faut d'abord réunir.
L'Afrique a besoin déjà d'avoir de l'énergie pour pouvoir transformer. Et pourtant nous avons de l'or blanc entre les mains à travers le coton. Mais c'est valable pour tous les autres produits agricoles que nous exportons de façon brute parce que nous n'avons pas pris le soin de rendre compétitifs nos industries, mais aussi l'accès à Internet. Tout cela aussi peut nous permettre demain de même de vendre les produits à partir du Tchad. Mais nous sommes un pays qui prend le soin de fermer l'accès à Internet. Donc tout se tient. On a même donné au président actuel un mandat appelé mandat rural. Où est le bilan de ce mandat rural? Et on semble maintenant nous dire qu'il faut passer maintenant à la transformation des chaînes de valeur agricoles.
André Kodmadinar Ndiamena, VOA Afrique,
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La Banque africaine de développement souhaite renforcer la capacité de résilience du continent. Eric Manirakiza s'est entretenu à Abidjan avec le directeur du bureau de coordination des États en transition de l'Alabad, Sibri Tapsoba.
On a constaté que les pays africains faisaient face à un certain nombre de défis. Et on a développé des outils pour bien analyser tout ça. Et on comprend les causes et les implications et tout ça. Mais ça ne se traduit pas à quelque chose de concret pour les populations. Donc on a dit, il faut qu'on aille au-delà de l'analyse et faire des actions. Et c'est ça la résilience en fait. C'est donner aux populations les moyens de se prendre en charge. En d'autres termes, donner les moyens de se passer de l'aide publique au développement, de se passer des institutions telles que la BAD. Le jour où on aura vraiment bâti la résilience, on pourra fermer la porte de la BAD.
Ils auront toujours besoin d'un accompagnement.
Oui, mais l'accompagnement d'un tout autre ordre. C'est-à-dire que l'accompagnement se fera dans, par exemple, les aider à structurer les investissements qu'ils veulent faire, les aider à mieux cibler ou à mettre en œuvre les opérations de manière beaucoup plus rapide. Mais on ne va pas se retrouver dans une situation où ces pays-là sont continuellement en train de tendre la main. C'est ça le gros débat aujourd'hui dans le monde du développement. C'est pas, et les populations de l'autre côté qui donnent. commence à être un peu fatigué quand même. Jusqu'à quand on va donner? Si vous étiez européen, quoi, la première question que vous posez, oui, il y a la misère peut-être. En Afrique, il y a des besoins. Mais c'est jusqu'à quand? Il faut qu'on trouve des solutions pour renverser cette tendance. Oui. Et c'est pourquoi la résilience.
Et apprendre les gens à pêcher au lieu de leur donner du poisson.
Oui, oui, oui. Bon, surtout quand il y a de l'eau. Hein. On ne va pas vous apprendre ou s'aider à pêcher. C'est un peu compliqué. Mais c'est quand même paradoxal, paradoxal que nous soyons assis sur des ressources incroyables. OK ? Et que la première chose qu'un jeune a un diplôme, il veut partir. Vous avez suivi le récit de cette femme-là, qui a eu toutes les misères, qui a payé 2 millions de francs CFA, qui a peur de son argent, qui s'est fait tabasser, qui a eu des violations physiques, et qui a été repêchée par l'OIM, ramenée dans son pays, on lui donne un petit moyen, elle commence à s'en sortir, et c'est quoi son rêve? Repartir.
Elle veut toujours repartir, c'est incroyable.
Non, ça c'est dramatique. Il faut qu'on donne aux populations l'espoir que vivre ici, c'est possible. On n'est pas obligé de partir. Mais cet espoir-là, ça ne remplit pas le ventre. C'est-à-dire que cet espoir doit se traduire en des actions concrètes. D'où cette notion de résilience.
C'était Sibri Tapsoba, directeur du Bureau de coordination des États en transition à la BAD. Les jeunes et écoliers à travers le monde ont manifesté ce vendredi en demandant des actions contre le changement climatique, alors que la 4e assemblée de l'ONU pour l'environnement de Nairobi prenait fin aujourd'hui. Une vague d'activisme inspirée par la jeune suédoise Greta Thunberg avec sa grève hebdomadaire de l'école. Raissa Girondin, adjoint à Nairobi, Landry Ninteretse, activiste burundais pour la justice climatique et responsable de l'ONG 350.org en Afrique.
Je dis que sur le continent africain, c'est plutôt impressionnant ce qu'on assiste aujourd'hui. Il y a des actions aux quatre coins de l'Afrique, depuis Cape Town, en Afrique du Sud, où des centaines d'écoliers étaient réunis ce matin, jusqu'à Muganda, même s'il y a eu quelques difficultés techniques d'ordre sécuritaire, de la police qui a tenté d'empêcher l'événement. Cela n'a pas empêché quand même que les élèves fassent entendre leur voix. Des événements également au Nigeria, au Sénégal, au Ghana, au Kenya, un peu partout.
Dans quel but?
Pour lancer un message aux leaders politiques, aux dirigeants, pour dire que le climat n'attend pas, le système doit changer et que les appeler les gouvernements à maintenir le réchauffement climatique en dessous de la limite critique de 1,5 degré Celsius afin de préserver un avenir sain pour les générations futures.
Cette jeunesse a-t-elle une aspiration plus forte que la précédente génération pour combattre le changement climatique?
La présente génération, la génération de Greta, disons entre 15 et 20 ans, réalise aujourd'hui que si nous continuons d'évoluer dans l'immobilisme et l'inaction, elle n'a pas d'avenir. À moins qu'une action d'envergure est mise en œuvre dans les plus brefs délais. C'est ça, c'est cette prise de conscience qui, depuis quelques semaines, amène élèves et étudiants du monde entier à se mobiliser afin de demander au gouvernement de prendre sans attendre les décisions nécessaires pour endiguer la déstabilisation structurelle du climat qui passe, comme vous le savez, essentiellement par les investissements continus dans les combustibles fossiles qui sont responsables du réchauffement climatique.
La Banque mondiale et la Banque africaine de développement viennent d'annoncer qu'elles allaient débloquer 47 milliards de dollars pour aider des pays africains face au changement climatique. Ils ont souligné aussi que la moitié de la population africaine dépendait encore du bois de chauffage et du charbon. Qu'en pensez-vous?
L'avenir se trouve dans les énergies renouvelables. La Banque mondiale ou la Banque africaine puisse injecter de nouveaux fonds sur son front. Mais nous croyons qu'avant tout, la responsabilité revient au gouvernement africain. Aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, il est presque inacceptable que le développement du continent puisse être financé à plus de 50% par des fonds externes.
Qu'attendez-vous après cet appel?
Que cet appel-là soit entendu, reçu et traduit en actes. Le gouvernement pourrait encourager la décentralisation de la production et de la gestion de ces énergies renouvelables afin de tenir en compte tous les avancées technologiques et les coûts. Les énergies renouvelables ont sensiblement baissé de coûts au cours de ces 10 dernières années. Autant d'avantages qu'il faut tirer profit afin de rapprocher l'électricité des zones les plus enclavées, et particulièrement sur le continent. Personne sur 10 n'a pas accès à l'électricité.
Voilà, c'était Landry Ninteretse, responsable de l'ONG 350.org en Afrique, joint à Nairobi.
En Nouvelle-Zélande, un extrémiste de droite australien a tiré sur des fidèles pendant la prière du vendredi dans deux mosquées de Christchurch. Cet attentat a fait plus de meurtres en un jour que ce que connaît le pays en une année. C'est aussi la pire tuerie contre des musulmans dans un pays occidental. Eric Manirakiza a joint à Paris le directeur de recherche chargé du terrorisme auprès du Centre français de recherche sur le renseignement, Alain Rodier.
Il est vrai qu'à l'heure actuelle, la menace terroriste vient essentiellement du camp salafiste. Mais en réaction, il est vrai que de l'autre côté, l'extrême droite activiste, c'est-à-dire violente, a tendance aussi à représenter maintenant une menace. D'ailleurs, en France, l'ancien directeur de la DGSI, il y a maintenant 2 ans, avait informé les représentants parlementaires du risque que représentait l'extrême droite activiste dans le monde en général et en France en particulier. Il faut savoir que l'objectif de ces groupuscules, parce que les nombres d'individus est relativement limité, et de créer le chaos en opposant des communautés l'une contre l'autre, il faut bien le dire, pour créer un climat de guerre civile sur lequel ils pourraient essayer de rebâtir la société telle qu'ils l'imaginent.
C'est quand même une attaque qui a été préparée pendant très longtemps et diffusée en direct sur Facebook.
Alors, il y a deux choses. Effectivement, c'est une attaque qui a été faite pour avoir un maximum d'écho dans les médias. De plus, il avait écrit un pensum qu'il avait diffusé très largement avant de passer à l'action, en espérant que ses idées, comme ça, connaîtraient un retentissement très large. Et en réalité, on peut s'imaginer que c'est son but, c'est de faire connaître sa cause, ses croyances. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne voulait pas mourir au combat, hein, comme un martyr islamiste. Lui, il veut parler et il profitera certainement du jugement quand il aura lieu pour en faire une tribune pour son idéologie.
En Égypte notamment, les Coptes sont toujours victimes de ce genre de situation.
Il est évident que Brenton Tarrant, hein, s'il s'agit bien de lui, a copié au moins la méthodologie employée par Breivik qui avait massacré des jeunes socialistes en Norvège le 22 juillet 2011. Il avait fait à l'époque également 77 victimes. Je pense qu'il s'est plus inspiré de cela que de ce qui peut se passer à l'heure actuelle malheureusement en Égypte.
C'était Alain Rodier, directeur de recherche auprès du Centre français de recherche sur le renseignement.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma, au micro, Claire Morin-Gibourg et Morgane Guiriec.
À la console, Justin Twaits. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde aujourd'hui,
diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.